Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. ¡Gol! William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol. Et là, ça y est, voilà, la 25e journée, on rentre vraiment dans la dernière ligne droite hein, un petit peu. On a une trêve qui va arriver d'ici deux semaines, le Classico la semaine prochaine. Mais là, pour ce numéro, on va parler d'un classique de la Liga aussi, hein, évidemment, entre deux clubs historiques, deux clubs de sociaux. On parle bien sûr de Athletic Club, Football Club Barcelona, à San Mamés. Ça va être dimanche à 21h, et pour nous parler de cette rencontre, pour nous parler de l'Athletic, qui d'autre que... Comment... On ne peut même plus le présenter. Réfé, comment...
Bah écoute, nickel, ça va super, effectivement. On va parler d'Athletic, ça faisait un petit moment, il y avait beaucoup de choses qui ont changé, mais très content d'être ici pour parler de l'Athletic, et puis effectivement de ce match qui est quand même un grand classique du foot espagnol.
C'est ça. Et puis pour parler du Barça, ben voilà, moi je suis à la présentation, donc on a un invité qui était déjà venu nous parler lors du match aller. Manu, comment ça va?
Ça va super avec vous.
Eh bien écoute, parfait, hein, là on est là pour ce podcast.
C'est avec plaisir qu'on vient parler du Barça, en plus contre l'Athletic Club, c'est toujours un bon rendez-vous. Il y a plein de bons souvenirs, certaines finales de Copa del Rey, un match cette saison en Liga qui s'est très bien passé. C'est toujours un plaisir de venir parler de ce match, d'autant plus que le Barça est sur un retour de forme important, un moment décisif de la saison. Donc on est très content de pouvoir revenir ici.
C'est ça. Et puis bon, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question sur l'Athletic, vu que... C'est l'Athletic qui reçoit. Justement, les Lions sont quand même à la peine cette saison. On voit une équipe qui enchaîne le bon, le moins bon, des matchs parfois frustrants aussi. Mais finalement, pour la course à l'Europe, même si vous n'êtes pas encore dans les clous, bon, vous n'êtes pas loin. Voilà, une petite série et tout peut s'inverser. Comment est-ce que tu évalues le retour de Valverde? Valverde qui a été prolongé dans les dernières semaines. Et on sait bien quand même que l'ambition de son mandat, c'est quand même de remettre le club en Europe. Donc toi, comment tu évalues un peu sa saison jusque-là?
Ben, honnêtement, c'est vrai que tu l'as dit, l'Athletic en soi n'est pas directement hors de la course à l'Europe. Mais c'est vrai que disons qu'en fait il y a eu deux saisons en une, si on peut résumer ça un peu ça comme ça, parce que jusqu'au mondial c'est vrai qu'il y avait cette dynamique qui était assez incroyable, quand même une quatrième place au moment de la Coupe du Monde qui était quand même assez surprenante, assez révélatrice de beaucoup de choses qui fonctionnaient plutôt bien dans cette équipe. Maintenant il y a aussi voilà eu un après Coupe du Monde malheureusement qui pour le coup est beaucoup moins brillant. Il y a eu il me semble seulement deux victoires comme depuis le retour du mondial, ce qui est terrible quand on sait qu'on avait deux points de retard, il me semble, ou un en tout cas sur la Real Sociedad qui était troisième au moment du mondial, et là aujourd'hui on est, je crois, à 10 ou 11 points. On voit que, voilà, même si la Ligue des Champions n'était pas forcément l'objectif initial, on voit bien qu'il y a quand même eu un décalage complet et que cette équipe a complètement lâché par rapport à ce qu'elle avait fait au début de saison. Donc évidemment, Valverde a sa part de responsabilité là-dedans. Moi, je considère en tout cas que... sur la pré-saison, parce que c'était là aussi qu'on avait commencé à avoir des changements, et sur le début de saison, il avait osé faire des choix qui étaient plutôt les bons et qui étaient plutôt surprenants, mais en tout cas qui avaient fini par convaincre et qui avaient marché. Après, pour le coup, voilà, moi c'est aussi la caractéristique que je lui note, c'est que le coaching, et ça c'est malheureusement depuis le début de saison, c'était déjà un peu le cas aussi lors de sa précédente étape il y a quelques années, mais je trouve que ça c'est... beaucoup plus, ça se voit beaucoup plus en tout cas cette saison, mais c'est que sur le coaching il fait beaucoup de choix qui sont en cours de match en tout cas qui sont assez critiquables et souvent l'Athletic fait plus souvent la différence au début d'ailleurs qu'en fin de match et ça explique parce que tout simplement cette équipe souvent a tendance après à pas forcément gérer les bonnes situations et c'est vrai qu'il y a des choix surprenants, par exemple le fait d'avoir laissé Muniain autant de temps sur le banc après le mondial, le fait que Sunset ait joué si peu de matchs à 90 minutes, ait joué si peu de matchs en intégralité, Voilà, il y a des choix qui sont surprenants et finalement qui ne sont pas toujours très compris. Ces derniers temps, il insiste beaucoup avec un milieu qui, bon, j'espère, ne sera pas titulaire dimanche, mais c'est celui entre Dani Garcia et Vesga et qui, à mon sens, ben, ne marche pas. Vesga, c'est un milieu qui est extrêmement limité pour cette équipe. Dani Garcia, c'est quelqu'un qui est capable de faire des bons matchs, qui a du caractère et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de, enfin, en tout cas, une grande partie des supporters le défend. Parce que c'est quelqu'un qui va faire du bruit sur le terrain et voilà, mais moi je trouve qu'il n'a pas le niveau non plus. Donc il y a aussi un vrai problème en tout cas autour de ses choix. Donc je dirais que voilà, ce bilan pour l'instant il est mitigé, la saison n'est pas finie et effectivement on est encore relativement proche de l'Europe. Mais voilà, moi ce qui me fait le plus peur surtout, c'est, je finirai sur là, c'est la qualité de l'effectif, comme j'ai déjà pu le dire à nombreuses reprises, parce que l'année dernière, je me souviens dans certains space, peut-être dans certains podcasts aussi, mais moi je réclamais, après le départ de Marcelino, évidemment un bon entraîneur, mais surtout un effectif qui change, parce que moi ce que je crains qui se profile et ce qui est en train de se profiler, même si voilà, on est que mi-mars et que la saison a encore deux, enfin 3 bons mois devant elle, c'est que là, voilà, on a le même effectif. Grosso modo, depuis plusieurs années, même s'il y a eu quelques arrivées, quelques départs évidemment, et on est à 5 coachs différents depuis 2017. Donc évidemment, moi, les coachs ont une responsabilité, mais on avait vu quand même que ce soit sous Marcelino, sous Valverde là aussi, qu'il y a un vrai problème de qualité d'effectif et que sur certains postes, c'est pas possible d'atteindre l'Europe, en tout cas avec des joueurs qui n'ont pas le niveau à certains postes, au milieu de terrain notamment, l'attaque qui est beaucoup trop irrégulière et une défense qui tient à peu près la route. Mais c'est vrai que dès que ces cadres sont absents, ça peut prendre l'eau très rapidement, quoi. Donc, voilà, je dirais évidemment des erreurs de Valverde sur le coaching, sur la façon d'aborder les matchs. Je pense qu'il a une part de responsabilité qu'on ne peut pas lui enlever et qui malheureusement bah, a aussi son importance dans la mauvaise dynamique de l'équipe depuis quelques temps. Mais après, voilà, il y a aussi beaucoup de joueurs qui, moi en tout cas, ne me semblent pas forcément convaincus par cette équipe, par ce projet que mène l'Athletic depuis un certain temps, et même voilà, plus sérieusement, qui n'ont pas le niveau. Après, maintenant, voilà, il reste un peu moins d'une quinzaine de journées, donc, la saison n'est pas encore finie, même si c'est vrai qu'on arrive dans un moment quand même important, la 25e. Donc voilà, on va espérer évidemment que l'équipe peut inverser la dynamique dès ce week-end, mais effectivement, ouais, il y a du coaching qui ne va pas, et puis beaucoup de joueurs, mais on aura le temps d'y revenir dans la saison aussi, qui n'ont plus leur place, mais qui sont toujours là. Je crois que c'est un peu le cas dans tous les clubs, mais évidemment, mais voilà, dans un club comme Atlético, qui depuis certains temps quand même n'atteint plus ses objectifs, je trouve que enfin, on a mis trop de temps à réagir et on met encore trop de temps maintenant, espérant que cette équipe me fera mentir et qu'elle atteindra l'Europe, parce que c'est ce que tout le monde souhaite, mais c'est vrai que la tâche va être rude, en tout cas parce que l'Europa League, elle est déjà quasiment à 10 points avec le Betis, enfin, ça dépendra s'il y aura la 6e place. Mais bon, voilà, en tout cas, on va espérer une qualification en Europa League. Il y a aussi la Coupe d'Espagne qui est toujours une possibilité, même si c'est pareil, ce ne sera pas facile là éventuellement. Donc, voilà un peu comment je pourrais résumer ce qui se passe ces derniers temps et comment je vois un peu ce que Valverde a fait depuis maintenant 6 mois, on va dire, à la tête de ce club.
On te remercie pour ce point très complet. Et puis c'est vrai, oui, l'Europe, ça fait un peu longtemps que justement, elle n'a pas pointé le bout de son nez du côté de Bilbao. Et c'est vrai que depuis la rénovation de San Mamés, les jeudis manquent à l'appel. Et c'est pourtant un stade qui ferait belle figure en Europe. Hein. C'est un stade vraiment de dernier cri. Donc ce serait bien aussi d'arriver à matérialiser tout cet investissement du côté de l'Athletic Club par justement une régularité ensuite au niveau européen de la part de l'équipe. Je vais maintenant passer avec toi, Manu, sur le Barça. Ben, maintenant, 9 points d'avance hein, suite à la victoire poussive contre le Valencia et le nul du Real Madrid un peu plus tard face au Betis. Les deux matchs qui arrivent, là, donc celui-ci et le Classico de la semaine prochaine, sont-ils vraiment le tournant de la saison pour, pourquoi pas, consacrer le Barça comme champion?
Ce qui est sûr, c'est qu'après une semaine très très compliquée où on a eu Manchester United et Almeria avec des défaites qui étaient très coûteuses pour le mental du Barça, l'élimination en Europa League et la première défaite depuis très très longtemps en Liga contre Almeria. Donc c'est sûr qu'on a eu une semaine de retour un peu en confiance malgré un jeu très poussif. Mais pour l'instant, les victoires sont là et c'est sûr que ces 6 points à venir, ceux contre l'Athletic à San Mamés, on sait que c'est un déplacement compliqué, et ceux contre le Real qui nous permettrait quand même de prendre une sacrée distance, le fameux match à 6 points, le Classico, qui sera au Camp Nou, évidemment. Ça, c'est deux matchs qui vont nous permettre peut-être d'aller chercher 3, 4, 5, peut-être 6 points d'avance sur le Real Madrid. Et ça, c'est vraiment, c'est dans le cas où on gagne les deux matchs. Et ça, ce serait vraiment, ce serait fatal pour le Real qui voudrait continuer évidemment sa course en Champions League et qui abandonnerait la Liga au bout d'un certain écart. Et ça, c'est l'objectif du Barça et ça peut être fait dans les deux prochaines semaines.
Ouais, tout à fait. Donc, tu as bien fait de mettre l'accent là-dessus. C'est vrai que ça a été des victoires qui ont vraiment redonné de la couleur à la saison, hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes après cette élimination en Ligue Europa, ce revers malheureux du côté d'Almeria. Et ce n'est pas anodin non plus, peut-être, d'avoir un Barça qui a loupé l'opportunité de se mettre à 10 points, mais qui, la semaine d'après, parviennent quand même à prendre à nouveau 2 points d'avance. Donc, ouais, c'est vrai que sur cette Liga, ça va se jouer là dans les prochaines semaines et c'est vraiment passionnant à suivre. Je vais revenir avec toi maintenant, Ruben. On parle de l'Athletic. J'ai parlé un peu de San Mamés. Parlons de San Mamés, justement. Est-ce que c'est pas le facteur décisif pour affronter le Barça, encore une fois, cette saison?
Ben, forcément, pour moi, si, c'est là, de toute façon, qu'il y a eu les seuls noms, parce qu'il y a eu cette finale de Supercopa aussi, mais les seuls succès face au Barça ces dernières années ont eu lieu à San Mamés, parce que au Camp Nou, on sait que c'est toujours très difficile, voire même, je ne vais pas dire impossible, parce que certaines équipes le font, mais c'est vrai qu'à San Mamés, oui, il y a toujours une ambiance particulière. Bon, en plus, ce dimanche, ce sera évidemment un stade bondé. Il y a aussi. Bon, il y a aussi des actions que j'ai vues qui se préparent par rapport au Canegreira avec une partie des supporters qui veut jeter des billets avec, il me semble, le logo du Barça dessus et marqué Mafia à côté. Donc bon, après, on aime ou on n'aime pas l'initiative. En tout cas, c'est voilà, juste pour préciser que c'était pas le club qui en était responsable, parce que c'est une initiative en tout cas de certains groupes de supporters. Mais San Mamés, en tout cas, peut être le facteur décisif, surtout parce que on se souvient qu'il y a eu les éliminations en Copa sur les dernières années. Et il y a eu aussi, c'est là qu'il y a eu là, tout simplement la dernière victoire aussi en Liga contre le Barça avec un but d'Azurris il y a à peu près un peu moins de 4 ans maintenant. Donc forcément, oui, c'est le facteur décisif. C'est vrai que San Mamés cette saison alors est quand même assez difficile à jouer, mais je dirais que on n'y est peut-être pas, en tout cas aussi, la saison dernière non plus d'ailleurs, mais on n'est peut-être pas aussi impérial qu'on l'est généralement. Après, on sait qu'évidemment dans les gros matchs c'est toujours très différent. Contre le Real Madrid, je prends notamment cet exemple-là, malgré la défaite 2-0, enfin, il y avait eu en tout cas une excellente ambiance, et c'est vrai que le score, même si c'était une défaite, en tout cas, reflétait pas forcément la physionomie de l'entièreté du match. Et je pense que voilà, ce dimanche ça sera pareil. Je ne sais pas si l'équipe sera forcément au rendez-vous, mais le fait qu'il y ait San Mamés, le fait qu'il y ait voilà, des dizaines de milliers de personnes qui derrière sont en train d'encourager, qui sont en train de faire du bruit parce que cette équipe en a besoin, c'est quelque chose qui est important évidemment. Après, j'espère, j'ose espérer en tout cas qu'il y aura une réaction aussi sur le terrain, parce que celle du public est importante, mais il en faut une aussi sur le terrain. En tout cas, mais San Mamés, oui, il sera le facteur décisif, surtout qu'on sait en plus voilà qu'il y a il y a l'Europe qui est en jeu, les supporters en sont bien conscients. Donc non, moi je crois beaucoup dans ce stade pour évidemment faire la différence, parce que c'est aussi là que c'est aussi en tout cas sur ce point que ça se joue, que les points cruciaux se jouent et que les matchs importants vont jouer. Et puis voilà, non, je terminerai juste en disant que si voilà, on n'est pas capable de faire la différence si dans un stade comme ça, Metz à domicile, voilà, ça va être dans une vision plus long terme, on va dire, c'est plus compliqué de la faire à l'extérieur. On sait que ce match-là, évidemment, même si c'est face à un Barça qui, comme Manu disait au début, comme vous l'avez enfin répété, comme on le voit aussi, si c'est un Barça qui a beau être dans une forme bonne, qui a beau être leader de Liga avec des chiffres incroyables, c'est vrai que ça ne doit pas empêcher non plus l'Athletic de faire ce match et de relever la tête, parce qu'effectivement, oui, la saison avance, et en tout cas, on a laissé beaucoup de points. Et je pense que voilà, l'entre de San Mamés, en tout cas, peut être la solution un peu pour relever la tête, parce que mine de rien, c'est nécessaire, quoi. Donc ouais, voilà, je crois beaucoup en San Mamés pour faire la différence, et je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de faire quelque chose. Après, on verra évidemment dimanche, mais en tout cas, disons que dans les tribunes, voilà, les supporters normalement répondront présents sur ça, il n'y a pas de trop de doute.
Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que c'est toujours le gros moment de ce genre de match, l'entrée à Stade Mamès, cette pression que peuvent mettre les tribunes. En plus, il prépare un petit cadeau en relation avec l'actualité. On a pu le voir notamment à travers des différents médias. Je vais revenir avec toi maintenant, Manu. Parlant du jeu du Barça, est-ce que c'est pas quand même un peu inquiétant? Au-delà même de la victoire face à Valence, on note sur ces dernières semaines quand même un Barça qui ne convainc pas, qui est beaucoup plus défensif qu'offensif, voilà, qui a vraiment du mal à boucler des longues séquences de domination. Est-ce que toi tu trouves ça inquiétant ou au contraire est-ce que tu trouves qu'il y a plus de positifs à souligner?
Bah, c'est sûr qu'il y a un certain joueur dont on reparlera après en parlant des absents qui conditionne énormément le jeu du Barça. En effet, enfin, on a beaucoup d'absents, mais il y a un joueur dont on est dépendant et il a seulement 20 ans et il s'appelle Pedri. Et c'est sûr qu'actuellement, le Barça a besoin de ce contrôle que Pedri amenait et on manque d'un joueur capable de le faire. De faire la fameuse posa, de pouvoir calmer le jeu, de réfléchir, de dicter le tempo. Et là, actuellement, ça ne se fait pas au Barça. Et donc, il y a un problème pour les phases de longue possession qui ne sont pas déclenchées. On a un souci à la relance, parfois. Évidemment, ni Gavi, ni Kessié, ni en fait aucun milieu du FC Barcelone n'a les qualités que Pedri a entre les lignes. Parce que peut-être qu'aucun milieu au monde n'a ces capacités-là. Donc, c'est sûr que là, le Barça a perdu énormément de contrôle. Mais en plus de ça, a aussi perdu dans sa percussion, dans son habilité à aller attaquer l'espace, parce que Dembélé n'est pas là. On a beau avoir des critiques pour Dembélé, bien sûr. Sa saison 2022-2023 est très bonne et il amène un danger permanent sur la droite qui n'est peut-être pas le cas de Rafinha. Même si Rafinha a une très très bonne contribution, on voit qu'il y a un souci actuellement dans l'animation de jeu du FC Barcelone. Et qui tend vraiment à être dans cette interligne entre la défense et le milieu adverse. On a beaucoup de mal à trouver nos joueurs dans ces petits espaces, à les faire garder le ballon, à trouver une passe intéressante. Donc c'est sûr que ça rend le jeu beaucoup plus complexe. Pareil, je pense que on peut observer une baisse de mobilité de la part de Lewandowski, même si là il a été absent contre Valence. Sur les matchs d'avant, on voit que Lewandowski est de moins en moins mobile, il essaye de moins en moins d'aller chercher des courses qui vont permettre de créer, de générer de l'espace. Peut-être que c'était dû à sa relation avec Pedri, mais Lewandowski, au début de la saison, on le voit bouger un peu partout, perturber les défenseurs, et là je trouve que c'est de moins en moins le cas. Donc je pense qu'il y a pas mal de soucis dans cette animation du FC Barcelone, avec cet énorme problème de comment remplacer le joyau qu'est Pedri, comment retrouver ce contrôle, cette capacité à dicter le tempo. Sans ce qui est peut-être notre meilleur milieu de terrain, finalement.
Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est une absence préjudiciable. Et puis on l'avait déjà noté la saison dernière, du moment où Pedri n'était pas là, c'est une équipe qui a du mal à générer son jeu. C'est vraiment la pièce maîtresse, on va dire, de ce que peut proposer Xavi, même dans ce milieu à 4, même si Gavi, Frenkie et même Busquets sont très performants depuis le début d'année 2023, quand Pedri n'est pas là. C'est toute une équipe qui a beaucoup plus de mal. Et Lewandowski, tu l'as dit aussi, doit retrouver la forme. A seulement 2 buts en Liga depuis le début d'année 2023. Donc non, c'est vraiment le match aussi, je pense, pour lui où il faut qu'il se reprenne. Et puis en plus, c'est toujours dur hein, et un beau théâtre à San Mamés pour pouvoir retrouver la forme. Donc voilà, c'est pour faire taire un peu ses détracteurs. C'est peut-être le match parfait pour lui. Je vais rester avec toi maintenant, Emmanuel, encore. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le groupe du Barça? Quels sont les absents? Quels sont les retours pour cette rencontre?
Alors, le grand retour, évidemment, on vient d'en parler, c'est Lewandowski, qui revient après, en fait, finalement, un temps d'absence moindre à ce qui était prévu. Mais on a nos absents habituels, j'ai envie de dire, depuis un petit mois, avec l'absence de Pedri, comme on en parlait, et l'absence de Ousmane Dembélé. Donc, on a ces deux joueurs qui ne seront pas là pour le rendez-vous. C'est évidemment un souci. On a aussi Araujo qui est suspendu contre l'Athletic Club. Ça, d'ailleurs, Iñaki Williams avait dit qu'il était heureux que Araujo soit suspendu pour éviter d'avoir à l'affronter au duel. Et je peux le comprendre. Mais ça va manquer au FC Barcelone dans la défense, Mais on sait qu'on a des, on a, cette année, on a quand même des manières de pallier à cette absence, probablement avec Koundé et Christensen qui, eux, sont convoqués, qui, eux, seront là pour le rendez-vous. Peut-être avec Sergio Roberto qui prendrait le poste de latéral droit, comme on l'avait vu au match aller contre l'Athletic Club, et d'ailleurs, il avait été buteur ce jour-là. Donc voilà, le jeune Alarcón qui refait sa place dans le groupe. Qui vient peut-être gratter une entrée, on ne sait pas. C'est sûr qu'avec l'absence de Dembélé, il a la possibilité d'aller chercher 2, 3, 4 minutes de temps en temps. Mais effectivement, le groupe du Barça est presque complet, mais à deux exceptions près. Et ces deux exceptions ne sont pas moindres. C'est les deux, probablement, individualités les plus importantes du FC Barcelone, avec l'un qui est capable d'atomiser une défense, de créer des différences monstrueuses, même si il peut être irrégulier. Dans un bon jour, Dembélé, il a une capacité à changer le match tout seul, et Pedri, qui a tous les matchs, est présent, et qui a tous les matchs, rend une performance 9, 8, 10 sur 10. Donc c'est sûr que ces deux absences compliquées à gérer et qui auront leur importance, en plus quand on analyse le jeu de l'Athletic, où il y a vraiment, je pense, un souci dans la protection de surface, mais aussi surtout dans le demi-espace droit, qui est évidemment la position de Pedri. Donc c'est vrai que c'est très dommageable de ne pas avoir le retour de notre milieu qui joue à cette position, qui est probablement l'une de nos meilleures individualités et qui se trouve dans l'une des zones de faiblesse de l'Athletic, qui a encaissé pas mal de buts de cette zone-là.
On te remercie pareil pour cette petite analyse en plus. Voilà, c'est le bonus de Manu. Voilà, la petite analyse au moment des absents et des retours. Ruben, pareil, au niveau de l'athlétique, on a vu pas mal de nouvelles aussi à ce sujet-là et elles sont plutôt mauvaises. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le groupe qu'aura à sa disposition, Ernesto Valverde?
Ouais, bah effectivement, si, il y a eu quelques informations cette semaine. Alors, pour commencer, on va dire par le positif, c'est que De Marcos et Yuri Berchtesgaden, qui étaient incertains tout au long de la semaine, vraisemblablement seront là. Donc ça, voilà, c'est une bonne chose au niveau des couloirs, parce que ce sont deux joueurs, mine de rien, qui sont quand même assez fondamentaux, surtout pour Yuri. Ensuite, par contre, là où c'est un peu moins brillant, c'est une absence déjà qui est confirmée, c'est celle de Sunset, qui a pris un rouge, bon, qui aurait pu être un carton jaune-orange, on va dire, face au Rayo, mais surtout un rouge pour une faute un peu stupide, quoi. Donc évidemment, on se passe d'un joueur important, hein, des seuls qui quittent à peu près la route, on va dire, ces derniers temps, face au Barça. Donc évidemment, ça, c'est une première grosse mauvaise nouvelle. Et ensuite, pour ce qui est des blessures également qui sont confirmés, il y a celle de Lecque, qui donc était le remplaçant de Marcos, mais bon, vraisemblablement qui en tout cas sera pas là. Et puis celle de Morcillo, pareil, qui a été opérée de la clavicule il y a pas très longtemps, donc qui sera pas là. Et deux incertitudes, c'est surtout celle de Ander Herrera, qui a repris l'entraînement cette semaine. C'est pas sûr qu'il soit là dimanche, mais on va espérer, parce que c'est un joueur qui fait extrêmement bien quand il peut jouer, même s'il sera dans tous les cas très sûrement pas titulaire. Et puis l'autre, c'est quand même Unai Simon, qui s'était blessé il y a maintenant une dizaine de jours, et qui, bon, vraisemblablement, sera pas en tout cas apte pour jouer, mais il y a possibilité qu'il soit dans le groupe. En tout cas, on verra ce qui se passe d'ici dimanche. Mais voilà, sinon, il y a Julen Agirre-Sabala qui fait en tout cas un très bon travail dans les cages. En tout cas, c'est pas un problème. Mais voilà, il y a quand même deux, trois gros absents pour ce match qu'il faut quand même noter, ouais, pour dimanche.
Ok, ben c'est parfait. Justement, ben, vu que tu nous adressais un peu cette liste-là, toi, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Voilà, comment est-ce qu'elle pourrait basculer? Un point que tu aimerais souligner, je t'en prie.
Mais disons que ça va rejoindre un peu ce que je disais précédemment, mais moi, cette rencontre me fait, alors évidemment, est décisive, mais me fait un peu peur aussi, parce que l'équipe, ces derniers temps, n'a pas forcément convaincu, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats. Il y a eu autant, voilà, autant il y a eu des matchs, surtout après le mondial, qui, bon, à mon sens, n'étaient pas forcément récompensés au niveau du résultat, parce que l'équipe proposait. Autant ces derniers temps, c'est beaucoup plus préoccupant, beaucoup plus inquiétant. Et c'est vrai qu'évidemment, face à la réception d'un club comme le Barça, moi, je suis pas spécialement très confiant. Je pense que maintenant, l'équipe, voilà, sait aussi qu'elle a un rôle à jouer, parce que, comme on l'a dit, Enfin, ne pas prendre de points là, ça serait encore plus tirer une balle dans les pieds par rapport à la course à l'Europe qui, mine de rien, continue d'avancer et qui reste l'objectif, on le rappelle. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une réalité, c'est celle du terrain. Et malheureusement, le Barça est quand même un cran au-dessus de nous. Il y a évidemment, vous parlez d'un joueur comme Lewandowski qui, effectivement, est pas dans sa meilleure forme, on va dire, de but ces derniers temps, mais qui reste un danger total pour notre défense. Et c'est vrai que, bon, après, il y aura évidemment des absences importantes du côté du Barça. Vous avez parlé de Pedri, vous avez parlé de Dembélé aussi. C'est vrai que Dembélé, on se souvient qu'il a fait extrêmement de mal au match aller dans le 4-0. Ça avait été très difficile. Donc évidemment, ça, c'est des choses qui peuvent jouer en notre faveur. Après, voilà, moi, j'espère surtout, et là où j'ai un peu plus de crainte, c'est par rapport au niveau de la gestion des couloirs, quoi, qui a été vraiment très mauvaise ces derniers temps, parce que Yuri Berchiche revient bien, mais il a quand même 33 ans et on voit bien qu'il est plus si frais qu'il y a 2-3 saisons. À droite, De Marcos, bon, a été blessé la semaine dernière, mais on voit bien qu'il y a quand même une vraie carence aussi sur ce côté-là. Et puis oui, offensivement, c'est pareil. C'est sur les côtés, en tout cas, c'est un vrai problème. Il y a Nico Williams qui, certes, apporte de la percussion, mais voilà, c'est pareil. Je trouve que c'est pas assez régulier. On l'a vu contre Valence, il a fait un match incroyable. Il marque notamment un but incroyable à Mestalla en faisant une course assez exceptionnelle. Mais voilà, disons que ces différences sont pas forcément récompensées toujours. Et puis Berenguer, qui à gauche, depuis quelque temps, voilà, ne propose plus grand-chose. Donc c'est en tout cas, moi, les couloirs qui me préoccupent, même si c'est vrai que il y aura, voilà, des absents, notamment sur la salle de Dembélé du côté du Barça qui sont à noter. Moi, c'est plus ce point-là qui m'inquiète. Et encore une fois, ce que j'espère, et je vais le répéter parce que c'est le gros problème de cette équipe, mais voilà, moi, j'espère, là où une différence, évidemment, c'est sur la finition des occasions, ne pas en avoir beaucoup, mais savoir les mettre, parce que voilà, ces équipes manquent d'un buteur, et on le répète souvent, en tout cas. Donc voilà, moi, cette rencontre, je la vois un peu pour répondre à la question, dans le sens où le Barça, évidemment, va la contrôler, va la dominer, je pense. Et je pense que l'Atlético ne jouera pas forcément que en contre, mais principalement parce que je pense que prendre l'initiative du jeu face à une telle équipe, même en étant à domicile, je pense que c'est toujours compliqué. Et malheureusement, je pense que la mentalité de Valverde et de l'équipe ne sera pas celle-ci non plus. Donc voilà, je vois en tout cas un match où on va beaucoup subir, mais un match où on est capable peut-être de faire une différence, en tout cas sur une action. Après, clairement, moi, je suis assez réaliste. Je vois mal comment on va ne pas encaisser de but. Enfin, voilà, moi, ça me semble compliqué. Et pareil, je pense que ça va être très difficile d'en marquer un. Donc, je révélerai mon pronom un peu après, mais en tout cas, voilà, une rencontre où on va beaucoup subir, où je pense que défensivement, on va être très sollicité, mais voilà, ça, c'est pas ce qui me fait le plus peur, parce que la défense généralement répond présent. Donc voilà, une rencontre, en tout cas, où effectivement, on sera sollicité défensivement, où on va pas mal subir, et on jouera principalement en contre, parce que voilà, moi, je me fie pas du tout de ce milieu qui risque d'être aligné, qui est d'une extrême faiblesse face à une équipe en face qui a un rouleau compresseur au niveau de cette zone du terrain. Donc voilà, et puis, si je devais donner un élément pour faire basculer la rencontre, bah, ce serait sans Mamès, tout simplement, parce que ça revient un peu à ce que je disais avant, mais voilà, c'est le stade qui est capable de faire des différences aussi, avec un public qui répondra présent. Donc voilà un peu pour mon analyse de cette rencontre.
Ok, ben pareil, hein, je pense que tu as été très complet pour nous présenter un peu ton point de vue du côté de l'athlétique. Toi, Manu, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Comment, pareil, tu vois cette rencontre? Tu avais déjà commencé un peu à nous en parler avec l'absence de Pedri. Voilà, quel match tu t'attends? Comment est-ce qu'il pourrait basculer? Je t'en prie.
Effectivement, comme je le disais, l'absence de Pedri est évidemment majeure d'un point de vue tactique. On se rappelle du match aller où, évidemment, il y avait eu 3-0, mais aussi où Xavi avait fait l'une de ses premières tentatives d'un milieu à 4 avec Pedri en ailier gauche qui pouvait rentrer vers l'intérieur et envoyer des ballons pour Dembélé. Et étonnamment, c'est l'une des meilleures performances de Dembélé cette saison avec un but et deux passes décisives, il me semble. C'était vraiment un excellent match de sa part parce qu'il a eu beaucoup d'espace à exploiter. Donc c'est sûr que vraiment, la présence de Pedri, en plus on connaît ses performances contre l'Athletic, c'était quelque chose d'important. Bon, maintenant Pedri est absent. Donc comment est-ce que la dynamique du match va-t-elle être? En réalité, en regardant un tout petit peu ce qui s'est passé sur les derniers matchs de l'Athletic. Évidemment, il y a un état de forme qui n'est pas excellent. Mais on voit que il y a un souci, moi je trouve, sur la défense de surface. Il y a un problème sur les ballons qui arrivent dans le demi-espace droit, comme je le disais. Il y a peut-être un problème d'intervention. Il y a des joueurs qui ne sont pas assez stricts et rugueux, qui ne vont pas trop aller sur l'homme à temps. Et ça, je pense que c'est un souci. Surtout en plus, c'est en contraste avec le FC Barcelone qui ne rayonne pas par son jeu, mais qui défensivement est quand même assez extraordinaire, avec des individualités comme Christensen et Araujo qui sont juste impressionnantes. Et bah, quand on voit l'Athletic, on a vraiment l'impression qu'il y a ce manque d'intervention. Il n'y a pas de joueur qui vient et qui se jette, qui limite les frappes, qui limite les angles. Il manque de ça, il manque de cette intervention dans la surface. Quand on sait que en face il y a Lewandowski, même s'il n'est pas dans un bon état de forme, on sait qu'il est capable toujours de trouver un but, même quand il n'est pas bon. Donc, si jamais il y a cette faiblesse dans la défense de surface de l'Athletic, ça va être très vite puni. Et il y a une autre faiblesse qui est peut-être corrélée, c'est la défense de coups de pied arrêtés, avec l'Athletic qui a beaucoup encaissé sur des coups de pied directs, ou alors, enfin, sur des corners, des centres de coups francs, ou alors des seconds ballons après coups de pied arrêtés. Et on sait qu'au début de saison, c'était une force du FC Barcelone. Ça pourrait revenir pour ce match, avec, on sait, Koundé qui avait été excellent sur coup de pied arrêté. On peut quand même être un peu déçu de l'absence de Araujo, qui, on le sait, est extraordinaire de la tête. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment cette importance du côté droit, qui est évidemment de toute façon majeure pour Barcelone, puisque c'est le seul endroit où on a un vrai ailier quand on joue à quatre milieux. Et avec ce Rafinha qui va rentrer à l'intérieur et qui aura besoin d'un latéral qui pourra exploiter l'aile. Et c'est pour ça que aussi je vois Sergio Roberto qui montera énormément comme il l'avait fait au match aller. Et là, dans ce cas-là, on aura cette importance du côté droit qui est un peu faible du côté de l'Athletic. Évidemment, aussi un peu inquiété par les latéraux de l'Athletic qui sont pas défensivement assez stricts. C'est sûr que Dembélé aurait fait énormément de bien. Mais donc vraiment cette importance du demi-espace droit, des coups de pied arrêtés et peut-être d'un ballon qui traînerait dans la surface avec un manque d'interventionnisme de l'Athletic. Sinon, en fait, ça c'est les enjeux majeurs. Je nous vois mal en fait perdre énormément, prendre énormément de buts puisque notre défense est tout simplement extrêmement solide. D'autant plus que la plus grande force de l'Athletic est sur notre plus grande force défensive du côté gauche. Donc c'est sûr que la relance, ça va être un enjeu important. On sait que De Jong et Busquets combinent assez bien pour se relancer en ce moment. Donc on espère que ça va bien fonctionner, avec une importance sur les coups de pied arrêtés, l'aile droite et peut-être un ballon qui traîne dans la surface.
Ok, ben justement, tu pronostiques une victoire, donc on est dans la dernière partie de ce podcast. Quel score du coup? Quel est ton pronostic?
Mon pronostic, ce serait peut-être un 3-1. Ou un 2-0, dans l'idée que le Barça va chercher à aller se relancer, à faire un bon résultat, pas juste une victoire.
Ok, donc pourquoi pas un 2-0, un nouveau clean sheet cette saison qui est la marque de fabrique du club, mine de rien. Et d'ailleurs, le record du Deportivo La Corogne, vieux de presque 30 ans maintenant, pourrait tomber. Et toi, Ruben, quel est ton pronostic pour ce match?
Effectivement, pas forcément très optimiste. Je rejoins beaucoup ce que dit Emmanuel avant sur l'analyse qu'il faisait de l'équipe. Et honnêtement, moi, je alors éventuellement, je pourrais pronostiquer un match nul, mais je suis même pas sûr d'être assez optimiste pour ça parce que les derniers signes me font pas spécialement. Me réjouissent pas spécialement, mais honnêtement, c'est pas dans mes habitudes. Mais je vois bien une victoire difficile, mais un zéro du Barça, en fait, parce que voilà, je pense que l'Atlético sera pas ridicule, mais j'ai énormément de mal à voir comment on peut ne pas encaisser et marquer contre cette équipe sans pour autant voilà être complètement sous l'eau. Mais ça me semble difficile, donc je vais dire une victoire 1-0 du Barça, même si je pense qu'il y a moyen de faire un nul aussi, mais voilà, je dirais le 1-0 du Barça en tout cas.
Ok, donc un bon petit 1-0. C'est vrai que ce serait le 9e dans ces cas-là cette saison, si ça venait à se confirmer, ce serait encore plus un record, sachant que le 8e, on a déjà été. Et donc du coup, moi je pense que ce sera un match, voilà, comme vous l'avez dit, qui sera marqué par la rigueur. Voilà, c'est vrai que ces dernières rencontres en Liga sont assez fermées. Il faut savoir être efficace dans la surface adverse et l'être dans la sienne. Donc je pense que le Barça, pour ça, a les armes pour s'imposer à nouveau à San Mamés en Liga. C'est vrai que dans les matchs couperets à élimination directe, c'est beaucoup plus compliqué. Mais étant donné les forces en présence et surtout celles qui manquent du côté de l'Athletic, ouais, je pense quand même que le Barça de Xavi peut s'imposer. Le retour de Lewandowski, tu l'as très bien dit, Manu, va dans ce sens. Là, ça va vraiment à nouveau remettre beaucoup de pression sur la charnière adverse. Et on sait qu'elle a un peu de mal aussi à relancer proprement et un peu paniquer. Donc non, ouais, je pense moi aussi une victoire du Barça. Pourquoi pas pareil, un 2-0 pour les hommes de Xavi. En tout cas, voilà, je pense qu'on a été vraiment complet sur cette rencontre. Je vous remercie bien évidemment d'avoir participé à ce podcast. Merci Manu d'être venu me suppléer et parler du Barça. C'était encore une fois une super prestation de ta part.
Ah bah c'est un plaisir comme toujours, hein, quand on peut parler du Barça, faire un peu d'analyse tactique et puis parler de l'état de forme, de ce qui se passe dans la saison. On aime évidemment parler de notre club, c'est notre passion, donc c'est toujours un plaisir de venir ici.
Yes. Et puis ben, à très vite. De toute façon, on va aussi te solliciter parce que des fois, j'ai un peu moins de temps hein, ces derniers temps, justement. Mais voilà, en tout cas, merci. Et puis Ruben, bon, comme d'habitude, tu es chez toi. De toute façon, c'est ta maison. Ce sont tes 4 ans aussi. Hein,
Oui, c'est vrai.
je te laisse le plaisir de l'annoncer. Merci d'être venu dans ce podcast.
Ben oui, effectivement, merci beaucoup à vous deux déjà pour ce podcast qui était évidemment, comme tous les autres, très, très sympa. Puis oui, effectivement, c'est vrai que c'était un épisode, alors pas forcément particulier, mais en tout cas qui marquait aujourd'hui les 4 ans, on va dire, de la page qui a été créée il y a 4 ans, du coup, le 10 mars, enfin 2019, du coup. Donc voilà, non, c'est aussi une belle aventure qui continue. Et puis c'est vrai que les podcasts, alors maintenant ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans, je crois. J'ai plus le chiffre en tête exactement, ça devait être fin 2020, donc ça fait 2 bonnes années et demie au moins. Et donc bah voilà, écoute, tout qui fonctionne, et ce numéro en tout cas était aussi parfaitement clair, très intéressant, pareil. Et voilà, j'espère qu'en tout cas qu'il aura plu à tous nos abonnés, tous nos auditeurs et à toutes les personnes qui pourront le partager. Éventuellement, bah voilà, si on peut vous souhaiter un bon match, ce serait une bonne chose aussi, parce que c'est vrai qu'il y aura aussi, on ne l'a pas dit, mais Gil Manzano qui sera à l'arbitrage. On sait que ça va pas être très facile, mais voilà, on espère en tout cas un bon match pour tout le monde. Et puis merci à tous d'avoir écouté et d'avoir pu relayer aussi ce podcast. Donc on vous souhaite un très bon match.
Exactement, ben, je pense qu'on n'a rien à dire après tes belles paroles. Et puis surtout, bon match. Voilà, rendez-vous 21h. Et on n'espère surtout pas le Manzano Show. Mais bon, cette saison avec
Eh
l'arbitrage, on n'a
oui.
pas été verni. Donc voilà. Rendez-vous à 21h. Et j'espère que ce podcast vous aura vraiment plu.